Phase 2. Babel, Evelyne Auberçon.
Bonjour et bienvenue. L'islam en Europe comme en Suisse est sous le feu de la critique. Le dépôt récent d'une initiative contre la burqa, des ouvrages qui dénoncent le fanatisme islamique, la peur de nouveaux attentats. Bref, l'islam aujourd'hui inquiète. Alors comment les musulmans vivent cette méfiance? Babel reçoit aujourd'hui un homme de terrain qui tente de créer des ponts et de trouver des solutions pour apaiser ses peurs. Il s'agit de Tarek Oubrou, imam de Bordeaux. Gabrielle de Sarzan, bonjour.
Bonjour Evelyne.
Alors c'est vous qui avez interrogé Tarek Oubrou pour parler justement des défis qui attendent les musulmans en Europe.
Oui, j'ai pu m'entretenir avec l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui était de passage en Suisse. Alors vous dire que c'est un homme érudit, le regard pétillant, le verbe clair, et qui a cette particularité de prêcher pour un islam qu'il appelle un islam de discrétion, c'est-à-dire qui s'adapte à la culture ambiante. Autrement dit, pour lui, la pratique religieuse ne tient pas au foulard, à la barbe, à la nourriture halal, mais à une attitude intérieure. Ne pas serrer la main d'une femme est pareillement pour lui une pratique de rupture qui isole le musulman du reste du monde.
Une position très partagée dans le monde islamique.
Alors Tarek Oubrou n'a pas le sentiment que sa pensée est originale. Pour lui, la majorité des musulmans en Europe pensent comme lui, mais je le cite, c'est souvent la minorité qui fait l'histoire. Tarek Oubrou a ainsi des expressions qui marquent, comme aussi quand il dit que quand on est chercheur de vérité, il faut savoir penser contre soi-même.
Tarek Oubrou, donc un homme de terrain, pragmatique de par sa profession d'imam, et en même temps, à vous entendre, c'est aussi un brillant intellectuel.
J'ajouterais même un excellent pédagogue. Pour commencer, je vous propose ces réflexions suite à une récente étude européenne qui dit que les musulmans en Europe sont intégrés mais pas acceptés. Je lui ai demandé s'il avait mal à son islam. Tarek Oubrou.
Je ne suis pas troublé psychologiquement parlant, mais ça m'interroge. Nous passons par une époque de crise qui touche tous les systèmes. L'islam, malheureusement, est le marqueur sociologique de cette crise qui traverse toutes les sociétés. En vérité, dans toutes les traditions chrétiennes, juives, bouddhistes, on le voit en Birmanie, etc. Toutes les traditions sont traversées par la crise de l'identité. C'est plus visible chez les musulmans, mais ça ne veut pas dire que chez les autres, cette angoisse n'existe pas. Mais ça m'interroge en tant qu'intellectuel, en tant que théologien, comment repenser la religion dans un monde marqué par l'incertitude. À cet égard-là, d'un côté, il y a une tension psychologique, mais parallèlement, il y a une excitation intellectuelle qui interroge le théoricien, le théologien, l'herméneute, à repenser le divin ici maintenant.
Quelles pourraient être, ou est-ce que vous arrivez à définir quelles seraient les grandes difficultés de l'islam aujourd'hui?
D'abord, c'est la difficulté des musulmans. L'islam n'existe pas en tant que tel. Il est vécu à travers des individus. Aujourd'hui, il y a plus une crise de civilisation et de culture qu'une crise de religion. Parce que l'islam a été porté par une civilisation, laquelle civilisation s'est effondrée. Et avec elle, s'est effondré le rapport à la spiritualité. Donc il faut justement faire sortir l'islam en tant qu'entité spirituelle pour la faire entrer dans la civilisation occidentale. Et donc désenvelopper l'islam de la civilisation originelle pour le faire entrer dans la civilisation contemporaine. C'est un travail herméneutique énorme, changement de paradigme théologique, canonique, etc. Ça demande un travail théoricien énorme. Mais ça ne suffit pas. Réformer l'islam, c'est une chose. Et changer la condition politique anthropologique des musulmans qui vivent cet islam à travers des cultures différentes, c'en est une autre. Donc il y a un travail intellectuel nécessaire, spirituel nécessaire, mais il n'y a pas que cela. Un musulman, c'est un être qui est travaillé par d'autres dimensions, les besoins élémentaires, l'angoisse également, le futur, l'éducation des enfants, l'économie, les injustices dans le monde musulman produisent le fanatisme d'une certaine manière. Donc le manque de démocratie. Donc il suffit pas de réformer la théologie musulmane pour résoudre ce problème qui est d'abord un problème de démocratie, de liberté, de dignité humaine, etc. etc.
Existe-t-il, selon vous, un islam européen?
L'islam est condamné à s'acculturer. L'islam a toujours vécu à travers des civilisations. L'islam chinois, c'est pas l'islam indien, c'est pas l'islam pakistanais. Ce que j'appelle la théologie d'acculturation. Tant que l'islam ne s'acculture pas, il ne peut pas être reçu et transmis. Il va disparaître. Il est condamné à s'acculturer, à s'occidentaliser. Moi-même, je travaille sur la théologie de l'acculturation, c'est-à-dire débarrasser l'islam des cultures originelles pour l'envelopper par la culture occidentale. Déjà, parler de Dieu en français, c'est déjà le sentir et le penser autrement. Il y a l'acculturation par le langage. Donc, la traduction est une création du sens. Et donc, je pense que l'islam doit parler le langage et la fréquence occidentale. Il y a une part des acteurs religieux qui n'arrivent pas à repenser l'islam dans des sociétés sécularisées, parce que le droit canon musulman a été formalisé dans une logique impériale, médiévale. L'appliquer aujourd'hui, c'est commettre l'anachronisme. Donc il y a un travail intellectuel, théologien qui doit être fait. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'école joue son rôle. Nos enfants sont presque des illettrés. À qui la faute, hein?
En tout cas religieusement.
Même au niveau du français, au niveau de la langue, au niveau de la culture. Il faut que nos enfants apprennent la culture occidentale. C'est pas possible que, après 5 ans au primaire, l'enfant n'arrive pas à compter et à lire. Et comment voulez-vous qu'ils comprennent la complexité de l'herméneutique des textes sacrés? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est face à une jeunesse qui ne comprend pas le français. Quand on leur explique la théologie, l'herméneutique, et que l'islam c'est pas binaire, c'est pas halal, haram, permis, pas permis, il y a une complexité. Comment voulez-vous qu'ils comprennent une complexité s'il n'a pas le langage? Quand il n'a pas le langage, il y a la violence. Et donc l'école doit jouer son rôle. Les médias également, ils doivent faire preuve de pédagogie, d'expliquer, au lieu de jeter des informations comme ça, sans l'accompagner des annotations pour expliquer. C'est une responsabilité du politique, des mass médias, de théologiens, de l'imam, du professeur, parce que le fait musulman est désormais un fait de société.
Dans votre dernier livre que j'ai sous les yeux, « La féministe et l'imam », Tarek Oubrou, vous parlez d'un tournant qui serait intervenu dans les années 90, quand les jeunes reviennent à des pratiques religieuses délaissées par leurs parents. Alors pourquoi cet intérêt des jeunes?
Oui, je pense que nous sommes entrés dans un cycle de désécularisation. Depuis les années 70, il y a un retour à la spiritualité en général. On le voit en Russie, en Chine, même la tradition communiste commence à se convertir à l'orthodoxie, etc. Donc il y a un retour qui touche le christianisme également, en Amérique, même en France, il y a un retour au catholicisme, etc. Donc nous sommes entrés dans une période de désécularisation. Mais c'est une désécularisation sauvage qui ne se fait pas par la médiation savante. On le trouve aujourd'hui à travers l'accès sauvage au texte. Voilà, il n'y a plus cette culture d'accompagnement. Nos enfants n'ont pas une culture religieuse, donc avec l'Internet, avec l'accès direct aux livres, bon, ils font des prélèvements scripturaires, ils bricolent, et ça peut produire des explosifs s'il n'y a pas une doctrine. Les textes sacrés ne peuvent pas être approchés si ce n'est qu'à travers une doctrine, parce que dans les textes, on trouve la chose, c'est au contraire. Parce que ces textes ont été révélés dans des réalités contradictoires. Donc comment avoir une doctrine pour comprendre et saisir l'esprit d'un message? Or, il y a un illettrisme religieux. La laïcité française n'enseigne pas le fait religieux, n'enseigne pas la religion. Donc il n'y a pas une culture religieuse. Donc les gens, ils ont besoin d'une spiritualité, ils ont besoin d'une identité. Bon, ils s'accrochent à n'importe quoi. Ils pensent qu'il suffit d'avoir la foi pour avoir raison. Alors que la foi, ça se travaille par l'intelligence. Sinon, ça va être le fanatisme.
Vous dites que pour plusieurs musulmans, leur rapport à la religion est devenu justement irrationnel et prend racine dans l'émotionnel. Alors là aussi, pourquoi?
Ils sont à l'image de leur époque. C'est l'émotion aujourd'hui qui nous gouverne. C'est fini l'époque de la raison. Aujourd'hui, c'est l'émotion. Ça fait vendre, ça fait mobiliser les électeurs. Donc ça touche tout le monde. Même le politique, il a besoin de surfer sur l'émotion. Le religieux également, il joue sur l'émotion, etc. Il y a un recul de la raison qui touche pas uniquement l'islam et les religions, mais ça touche même ceux qui sont censés être les garants de la rationalité. Avec le principe d'incertitude dans la mécanique quantique, bah, même la physique est devenue folle, parce qu'il n'y a plus, il y a plus de règles, d'une certaine manière. Là, il y a une crise de la raison et qui touche tous les systèmes, y compris les systèmes religieux. C'est visible chez les musulmans, parce que c'est un fait médiatique. Mais personne n'est à l'abri de l'irrationnel. Nous sommes, au fond, des animaux les plus irrationnels. Nous sommes imprévisibles. Donc, à partir de là, le musulman, il est à l'image de son époque. Il n'est pas constitué d'un gène particulier. C'est un être humain. Il travaille par les mêmes émotions, les mêmes tripes. Sauf que il peint ses émotions par le vernis islamique. C'est tout. Mais la substance, elle est humaine. Elle est anthropologique. Mais puisqu'il est d'une tradition musulmane, eh bien, il se réfère à l'islam, tout simplement. S'il était communiste, il va faire la même chose. S'il était chrétien, dans des conditions socio-économiques, bon, les mêmes causes, parfois, produisent les mêmes effets. C'est le vernis qui change. C'est le vernis idéologique et religieux qui change. Mais la substance humaine est la même. C'est la condition des musulmans aujourd'hui, la condition de l'immigration, la condition de l'identité, etc., qui fait que le musulman n'a pas de recours à autre chose, si ce n'est qu'à une religion qu'il ne connaît pas, d'ailleurs. Les musulmans ne sont pas des théologiens. Ils sont travaillés par un sentiment de Dieu, mais qui n'est pas travaillé par la culture et le savoir. Moi, je pense aussi qu'il faut introduire quand même dans l'histoire qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles occidentales l'apport de la civilisation arabo-musulmane. C'est pas possible que nos enfants passent tout leur cursus scolaire sans connaître l'apport de la civilisation arabo-musulmane. On passe de la civilisation gréco-romaine au christianisme, au siècle des Lumières, circuit et a rien à voir. Alors qu'en Sorbonne, 1258 et 4 siècles après, on enseignait la médecine en langue arabe. Mais c'est l'histoire d'occidentale. L'islam a toujours fait partie de l'histoire de l'Occident. On ne peut pas comprendre la scolastique chrétienne, saint Thomas d'Aquin, sans connaître la scolastique musulmane ni la pensée d'Averroès, un des concepteurs de la laïcité, d'une certaine manière. C'est pas possible. L'histoire occidentale n'est pas étrangère. Au siècle andalou, par exemple, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire de la charité intellectuelle, de demander la charité, introduisez un peu de la civilisation arabo-musulmane. Non, non, on revendique pour le coup un droit légitime. Ça peut réconcilier les mentalités. Ça veut dire que l'Occidental ne va pas se sentir comme un étranger à cette civilisation. L'Occident, c'est le produit d'un cumul civilisationnel, civilisation chinoise, indienne, chrétienne, juive, arabo-musulmane, siècle des Lumières, etc. C'est un cumul de civilisations. La civilisation arabo-musulmane a joué un rôle. Quand on enseigne le théorème d'Al-Kashi, qui est une généralisation du théorème de Pythagore, ben, il suffit de dire que c'est un arabo-musulman. Pourquoi chaque fois qu'on parle du musulman, on ne parle qu'en termes de terrorisme ? Introduisez de la culture aussi. Donc en vérité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas le problème de l'islam, c'est le problème des musulmans. Les musulmans au Moyen-Âge étaient plus tolérants, plus ouverts, parce qu'ils étaient dans une civilisation grandiose. L'arabe était la langue des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, etc. C'est le même islam qui produit aujourd'hui le terrorisme. Pourquoi ? Est-ce que c'est à cause de l'islam ou bien à cause d'une situation civilisationnelle délabrée ? Donc il faut donner des outils intellectuels de discernement. Et ça, il faut commencer d'abord par nos intellectuels occidentaux qui sont aussi illettrés que le commun des occidentaux en matière de connaissances musulmanes. Nous sommes marqués en Occident par la pensée musulmane. Il habite la philosophie occidentale. Lorsque je lis Kant, j'ai l'impression de lire Al-Ghazal, Averroès, avec les catégories, l'entendement, l'intuition pure, etc. Il y a une circulation des idées depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, c'est sécularisé. Mais les origines, c'est arabo-musulman, judéo-chrétien, gréco-romain, c'est un apport. Pourquoi, dès qu'on parle de l'islam, allez, on efface de l'histoire occidentale cet aspect lumineux de l'islam. Je pense que c'est un moyen d'intégration également. Lorsqu'un musulman se reconnaît dans cette histoire occidentale à laquelle ses ancêtres ont contribué, il va se sentir occidental. Je pense que c'est un moyen efficace d'intégration intellectuelle et mentale. D'abord, intégrer les occidentaux dans une histoire plus large et intégrer les musulmans dans une histoire occidentale à laquelle leurs ancêtres ont contribué pendant des siècles et des siècles.
Babel reçoit aujourd'hui Tarek Oubrou, imam de Bordeaux. À l'instant, il exprimait son souhait de mettre en avant la contribution arabo-musulmane dans l'histoire. Gabriel de Sarzan, pour faire écho à cette analyse, vous avez rencontré un musulman suisse qui lui aussi, à sa manière, veut apporter sa contribution.
Oui, j'ai tendu mon micro à Yassine Diff, 30 ans, un musulman qui est chargé de communication à l'association citoyenne fribourgeoise Frislam, une association qui veut être au service de la communauté musulmane, mais également une plus-value pour la société suisse dans son ensemble. Yassine Diff est tunisien d'origine, depuis 25 ans en Suisse, et j'ai commencé par lui demander ce qu'il faisait, lui, tout à fait concrètement, pour son intégration de musulmans dans la société suisse. Yassine Diff.
Alors déjà, moi, je ne vais pas vous parler d'intégration, je vais parler de contribution à la société. Parce que moi, je me sens plus suisse que tunisien, déjà, parce que j'ai vécu toute ma vie ici. Et pour moi, le lieu où on vit, c'est le lieu auquel il faut qu'on contribue. Donc, en tant que citoyen suisse de confession musulmane, je me sens pleinement suisse, pleinement fribourgeois. Et je veux participer à ma société, y contribuer, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'armée. Par exemple, la semaine prochaine, je vais partir en paiement de galon du capitaine. Donc, moi, je considère que c'est une contribution à la sécurité de la Suisse. Et en tant que pharmacien, je vais bientôt être diplômé, je contribue à la santé de mes concitoyens. Donc voilà, le point de départ citoyen pour contribuer à la société, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, je pense qu'il doit être le même. Il faut vouloir apporter quelque chose de positif à la société. Après, on peut avoir des valeurs qui sont musulmanes ou autres, sur lesquelles on peut rejoindre nos concitoyens. Et ces valeurs-là vont permettre de vivre ensemble, d'avoir des valeurs qu'on partage, et avec lesquels on peut construire une société où il fait bon vivre.
Et quelles sont ces valeurs ?
Ah, les valeurs d'équité, les valeurs de justice, les valeurs typiquement ne pas mentir, ne pas voler, enfin les choses de base qui rejoignent d'ailleurs les religions abrahamiques, on va dire, les 10 commandements tout simplement. Toutes ces règles-là qui font qu'on a une société où il fait bon vivre, où les gens se respectent, acceptent la différence, acceptent l'autre. Et ces valeurs communes vont permettre de vivre ensemble de manière apaisée.
Vous sentez, Yassine Diff, qu'il y a quand même une peur de l'islam, en Suisse aussi.
Ben écoutez, si j'ouvre la télé et je regarde le 20 minutes et je reçois les tweets d'attentats qui se passent en Europe, j'aurais moi-même très peur. Donc cette peur, elle est très compréhensible et ça prouve que les Suisses de confession musulmane ont un énorme travail à faire. Ne serait-ce que dire qu'eux, ils ne font pas partie de cette mouvance ou ils ne font pas partie de c'est vraiment cette folie qui a pris ces gens-là, que ce soit en Syrie ou les attentats qui se sont passés en Europe. Donc se démarquer très clairement et de par leur vécu et leur vie en Suisse, montrer comment eux, ils sont véritablement. Donc aller vers l'autre, expliquer la démarche, montrer ce qui est positif et se démarquer de ces gens-là qui ne correspondent pas du tout à l'islam en fait.
Yassine Diff, est-ce que vous avez l'impression que c'est le travail qui concerne maintenant votre génération, c'est-à-dire peut-être la deuxième ou troisième génération de personnes qui sont arrivées d'autres pays ?
Tout à fait. La première génération, elle était dans la survie. Moi, je leur en veux pas. C'est des gens qui, du matin au soir, travaillaient, essayaient péniblement de s'intégrer dans la société en essayant de parler la langue avec difficulté. Ils ont fait tout un travail de créer des mosquées, de créer des associations en essayant de comprendre la société dans laquelle ils sont. La deuxième et troisième génération dont je fais partie, on est vraiment dans la contribution à la société. Alors, il est évident que c'est à nous d'aller vers l'autre, d'expliquer notre démarche, de décristalliser toutes ces peurs-là. Et en décristallisant ces peurs, on évitera typiquement des initiatives qui ne servent à rien, comme interdire la burqa. C'est un problème très périphérique qui concerne 10 ou 20 saoudiennes par année. Là, on ne répond pas vraiment aux problématiques auxquelles on est confronté et ça ne va pas du tout dans le sens du vivre ensemble. Donc si on veut du vivre ensemble, si on veut une cohésion sociale, une paix sociale et une paix religieuse en Suisse, Les musulmans ont un énorme travail à faire, c'est clair, de communication, d'expliquer ce qu'ils font, d'être très transparent et d'être cohérent dans ce qu'ils font. Et là, je vais peut-être taper un petit peu sur les médias, mais le matraquage continu de choses négatives n'est pas non plus très productif. Donc montrer aussi les trains qui arrivent à l'heure, ça peut toujours servir, et c'est un garant de la paix religieuse en Suisse.
Tarek Oubrou, pendant des années, vous avez encouragé les femmes musulmanes à se couvrir la tête avec conviction. Aujourd'hui, vous les appelez au contraire à une visibilité que vous qualifiez de discrète. Et vous répétez que le voile ne se base sur aucun fondement religieux incontestable. Finalement, vous avez beaucoup changé. Alors pourquoi ce changement? Quelle a été l'étincelle de ce changement?
C'est normal que celui qui use de sa raison, c'est normal qu'il change de conviction. Il faut savoir penser contre soi-même. J'ai dû penser contre moi-même. C'est le propre de celui qui cherche la vérité. Mais cette vérité, elle éclate sous l'effet des événements. La réalité nous interroge sur nos pseudo-évidences, la rencontre de l'autre, la difficulté que peut procurer une pratique. Donc on va revisiter ses fondements. Pourquoi on se focalise sur le foulard? Donc j'ai dû chercher dans les classiques, etc. Donc j'ai vérifié que ça ne repose pas sur vraiment quelque chose d'incontestable et que c'est une pratique, même pour ceux qui la considèrent comme une pratique obligatoire, c'est une obligation très mineure. Moi, je pense que ce n'est pas une obligation formelle, que la pudeur ne se résume pas à la couverture des cheveux. C'est une attitude intérieure dans le regard, dans la parole, dans la politesse, etc. Et réduire le corps de la femme à un tissu, vraiment, c'est indigne pour la femme. Et je voudrais déplacer le débat sur l'islam du foulard à la spiritualité. Nous sommes tombés dans un piège. Les musulmans se sont piégés eux-mêmes. On donne l'impression qu'on est une religion de la loi. C'est presque une vision un peu judaïque, avec tous mes respects au judaïsme, puisque nous sommes également, en tant que monothéistes, prolongement du judaïsme, mais dans le sens de l'allègement de la loi qui a été amorcée par Jésus. Nous sommes dans cette théologie d'allègement de la loi. Il y a un retour vers la tradition abrahamique qui était simple et spontanée. Mais ce retour-là s'est arrêté à la Torah. J'ai l'impression que là, on n'est pas dans le paradigme islamique. Donc, j'ai dû travailler sur l'herméneutique. Bon, 40 ans d'études, ça me permet d'évoluer. Je m'inscris dans la tradition des théologiens classiques qui peuvent avoir 4 avis sur la même question. Parce que celui qui fait travailler sa raison, il ne cesse de changer de conviction. Parce qu'il est en quête de la vérité. Donc moi-même, je pensais que c'était une obligation importante. J'ai élevé mes enfants, mes filles sur ça, etc. Puis je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Et donc, voilà, c'était plus de l'idéologie en vérité, par l'islamisme des années 70. On a fait de la femme le cheval de bataille pour préserver la famille, la société. Ça s'inscrit dans tout un programme identitaire, culturel, le monde musulman contre le monde occidental, etc. Donc, en vérité, le foulard, il cristallise une tension entre l'Occident et l'Orient. Mais c'est ridicule. L'islam, il est venu pour toute l'humanité. Pourquoi faire de l'islam une frontière ou un bouclier identitariste de protection? Dieu de l'islam, c'est Dieu des mondes. D'ailleurs, c'est Dieu des mondes, c'est pas Dieu d'un peuple. Et donc, il est disponible, sa miséricorde. Il faut que l'islam soit un pont et pas une frontière. Et donc, on est dans un paradigme de la civilisation. Et quand on est dans le paradigme de la civilisation, on va théoriser une religion des frontières. Mais l'islam, c'est comme le christianisme, c'est un esprit qui circule et qui lie les gens. Donc il faut changer complètement de perception des textes et de l'interprétation. Il faut revenir à l'esprit virginal de la religion et qui est là au service de l'homme, pas contre l'homme. Pas pour la division, parce que la division, c'est le propre du diable. Diabolos, c'est celui qui sépare. Mais Dieu ne sépare pas, ne cherche pas à séparer. Il cherche à unir. Donc, de quel Dieu s'agit-il? C'est ça le problème. Il y a plus un discours sur la norme au détriment d'un discours sur Dieu. Donc, de quel Dieu s'agit-il? La loi sans législateur est une aberration. Et j'ai l'impression que beaucoup de musulmans donnent l'impression que l'islam est une religion de la loi, une forme de nomolatrie. La loi pour la loi, la prière pour la prière, le halal pour le halal, etc. Mais où est le sens? Et donc il faut rétablir le sens.
Et vous plaidez d'ailleurs pour un islam de la discrétion.
Mais le propre de la foi, c'est la discrétion. L'ostentation est contraire à la foi. Plus vous étalez quelque chose, plus vous l'abîmez. Moi, la foi, c'est quelque chose de très intime. C'est comme un joyau, en vérité. Quand on a un joyau, on essaie un peu de le garder dans l'intimité. Mais les gens qui étalent leur foi partout, etc., mais sont dans l'égotisme et l'égocentrisme. Moi, je pense qu'il faut être présent par la discrétion. Mais il faut être visible, par contre, dans le côté de la générosité, de l'hospitalité, respecter les rendez-vous, les engagements. C'est cette visibilité que je veux pour les musulmans, et pas une visibilité de revendication des spécificités.
Vous dites aussi que l'islam, en fait, est devenu identitaire, qu'il n'est plus religieux si on se borne à respecter le foulard, mais aussi la barbe, la nourriture halal, qui, selon vous, ne sont absolument pas nécessaires, finalement.
C'est une altération de l'islam. L'islam, c'est une religion comme le christianisme, comme les grandes traditions de l'esprit, la tension vers la transcendance, le travail sur soi, ce qu'on appelle le jihad majeur, le combat contre l'ennemi qui nous habite. En vérité, on se trompe d'ennemi. Il nous habite, on nous le nourrit, nous le défendons. Voilà, il faut plonger dans le désert intérieur. Voilà, cette dimension du soufisme, ce combat silencieux. Voilà, sur la domestication de nos instincts, pas pour les éradiquer, mais les modérer, etc. Le travail moral, spirituel, et au lieu de transformer l'islam comme l'étalage de la culture, de l'opposition, la revendication. En tout cas, c'est pas mon islam.
Mais est-ce que vous n'êtes pas minoritaire à penser comme ça?
C'est la majorité des musulmans qui pensent comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les minorités qui font l'histoire. C'est la première fois que les religions sont amenées à parler aux croyants et aux non-croyants en même temps. Parce qu'on est dans la transparence totale. La paroisse, la mosquée aujourd'hui, par le biais de l'Internet, est ouverte sur le monde. Parler aux croyants, c'est parler au monde. Il faut que les religions, notamment l'islam, apprennent désormais à parler à l'humain, tout simplement. Et au lieu de parler uniquement à la première rangée de sa mosquée. Parce qu'aujourd'hui, on parle au monde en même temps.
Et dire quoi?
Un discours qui lie les humains et qui permet aux musulmans d'intégrer l'autre dans l'économie de sa spiritualité. Ce que j'appelle la théologie de l'altérité. Se réaliser avec l'autre dans sa différence. C'est plus que le respect de la dignité de l'autre. C'est se réaliser avec l'autre. Et ça, on a besoin d'une nouvelle théologie, c'est-à-dire lire les textes en faisant place aux non-musulmans dans l'économie théologique, dans les pratiques, parce que l'islam, comme beaucoup de religions, ont été pensés dans des aires culturelles, dans des sociétés closes, fermées, dans des civilisations où il y avait des frontières. Aujourd'hui, les gens se déplacent, communiquent à travers des moyens de communication de plus en plus sophistiqués. Donc on est dans une humanité fractale où le tout est dans la partie. On est dans des sociétés mondes. Il y a une intrication des cultures et des religions. Il faut que les gens apprennent à vivre avec l'autre qui ne partagent pas forcément la même vision du monde.
Est-ce que dans ce sens-là, Tarek Oubrou, vous réfléchissez, vous travaillez de façon interreligieuse?
Ben, on ne peut pas penser avec soi-même. C'est le narcissisme. Une religion qui se respecte, il se pense avec l'autre. Dieu lui-même, il a parlé à l'homme. Il aurait pu ne pas créer l'homme et parler avec lui-même. Donc c'est Dieu qui nous apprend à se réaliser avec l'autre. C'est dans le dialogue, la rencontre, la différence. Dieu a parlé avec le diable, il a parlé avec les anges, il a parlé avec la créature. Voilà. L'homme, quelle que soit sa religion, il doit s'ouvrir sur l'autre. Le clonage est catastrophique, biologiquement, culturellement, esthétiquement. Cloner tout le monde pense de la même manière, c'est l'extinction de l'espèce, tout simplement.
C'est un appauvrissement.
C'est l'extinction, c'est plus que l'appauvrissement, c'est la disparition, tout simplement, de la foi. Une foi qui se pense avec elle-même, il disparaît. C'est vital que les gens s'ouvrent sur les autres. Et à l'intérieur de l'islam, tous les musulmans ne pensent pas la même chose. Donc il faut apprendre à vivre avec l'autre. Le terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans parce que ces terroristes, ces fanatiques, ne sont pas d'accord avec le reste des musulmans. En vérité, le terrorisme, c'est une implosion des religions de l'intérieur. Le christianisme entre les protestants, les catholiques, on a vu les guerres chez les musulmans également. Donc en vérité, il faut apprendre à vivre avec depuis la famille déjà. Il faut que la famille apprenne aux enfants d'accepter, de tolérer la tolérance, accepter l'autre dans sa différence. Et je pense que c'est une nécessité, il faut apprendre ça dans les foyers, dans les écoles, dans les mass-médias, organiser des dialogues interreligieux. Voilà, dans les mass-médias, pourquoi pas? Un pasteur, un imam, un rabbin, un prêtre, un agnostique, autour d'un même sujet. Et là, les gens vont découvrir que les religions, les philosophies, les idéologies peuvent parler, mais ils n'ont pas de modèle. Or, dans la réalité, il y a beaucoup de dialogues interreligieux. Moi, je vis ça tout le temps. Il y a beaucoup de rencontres interreligieuses sur des questions bioéthiques, sur des questions de la famille, de questions de la transmission. Pourquoi ne pas médiatiser cela? Je pense que c'est faire œuvre de pédagogie.
Concrètement, Tarek Oubrou, qu'est-ce qui vous aurait intéressé, par exemple, dans une tradition chrétienne dernièrement? Qu'est-ce qui vous a peut-être nourri chez l'autre?
C'est la position du pape qui, pour moi, il honore le message de l'évangile. Il l'incarne. C'est quelqu'un quand même qui me séduit spirituellement parlant. Quelqu'un qui est capable de parler à l'humanité. Et je pense que c'est un exemple pour tout le monde.
Et à propos de quoi, par exemple, ça vous a touché?
Sur toutes les questions. C'est quelqu'un qui condamne l'injustice, quelle qu'elle soit. On a entendu sur la question des musulmans persécutés en Birmanie. Donc c'est quelqu'un qui défend la justice, l'abstraction en fait de la religion du persécuté. Il veut réformer l'Église. Donc il est heurté, il est confronté à des freins à l'intérieur même de l'institution, etc. Il y a chez les chrétiens également ce sentiment de... Pas de culpabilité, pas parce que c'est dû au péché originel, mais c'est ce sentiment de la faute plus que les musulmans. Les musulmans, ils n'ont pas le péché originel, donc ils n'ont pas ce sentiment de responsabilité. Puisque Dieu est pardonneur, il peut pardonner, etc. etc. Ils ont moins de sentiment de culpabilité. Je dis aux chrétiens, diminuez votre sentiment de culpabilité. Un petit peu, vous en avez trop. Et je dis aux musulmans, augmentez le degré de sentiment de culpabilité parce que j'ai l'impression que vous justifiez n'importe quoi au nom de la miséricorde de Dieu.
Et vous êtes entendu?
Ben, je pense pas totalement, mais je suis entendu quand même.
Vous citez un proverbe arabe à la fin de votre livre, hein. La crise porte toujours la délivrance avec elle, comme toute nuit annonce l'aube. Tarek Oubrou, d'où est-ce que vient le salut, finalement?
Le salut, il vient de l'homme lui-même. Le salut, c'est à l'intérieur des gens. Le bonheur, c'est intérieur. Le malheur, c'est intérieur. Le paradis, c'est intérieur. L'enfer, c'est intérieur. La réalité, elle est ce qu'elle est. Mais on n'a pas la même perception de la réalité. Tout est toujours à l'intérieur. Il faut que les gens apprennent à changer leur regard sur le monde. Mais le monde, il est ce qu'il est. Et donc le malheur, il peut être procuré malheureusement d'une pensée qui n'est pas vérifiée, d'une perception qui n'est pas claire et lucide sur le monde. Et je pense que la crise actuellement, c'est comme le creux qui annonce le pic. Notre histoire, elle est sinusoïdale, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on pense qu'on est dans le creux, ce n'est pas vrai, c'est une vision des choses. Et même s'il y a le creux, ben le creux n'est pas éternel. Toute crise n'est pas éternelle, il annonce... un tournant, une transformation de notre époque, parce que quand même, nous changeons d'époque. Et tout changement est accompagné par des tectoniques, des plaques qui produisent des séismes et des volcans. C'est nécessaire pour le changement. C'est le prix à payer.
Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, que vous avez rencontré, Gabriel de Sarzan. Alors évidemment, c'est un entretien qu'on peut retrouver sur notre portail rtsreligion.ch, mais qu'on pourrait aussi approfondir en lisant un de ses livres.
Oui, par exemple le dernier, qui s'intitule « La féministe et l'imam ». C'est coécrit avec Marie-Françoise Colombani aux éditions Stock.
Merci beaucoup Gabriel. On vous retrouve dimanche prochain pour un autre sujet.
Oui, ce sera avec Francine Carillo, donc une théologienne genevoise qui habite maintenant à La Sage, en Valais, et qui a écrit un livre étonnant sur la figure de Jonas, donc une figure biblique.
Alors, à dimanche prochain, Gabriel. Merci à Gilles Ozaman pour la réalisation, à Nicole Corpato et Nicole Fontana qui sont nos assistantes de production. Et donc, rendez-vous dimanche prochain. Babel referme ses portes et cède tout de suite sa place à Poussière d'étoiles.